Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'appel sur l'actualité. C'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. 20 minutes pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces jours-ci dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous êtes quelques-uns à souhaiter réagir à la candidature. Et oui, c'est officiel, de Fornia Simbé au Togo. Il brigue un troisième mandat. J'espère qu'on réussira à joindre Pierre. Pierre, il est camerounais. Il vit à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Il nous a envoyé un courrier électronique cette semaine. Il souhaite témoigner de la situation sur place. J'espère que le réseau au téléphone passera d'ici la fin de l'émission. Réaction également sur la situation à Bujumbura. Il y a eu de très grandes manifestations la semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour notamment accueillir un journaliste libéré, un journaliste très populaire sur place, mais aussi pour dénoncer la politique menée par le président burundais. On aura l'occasion, vous le verrez, d'aborder beaucoup de sujets. Mais d'abord, les négociations intermaliennes qui se tiennent à Alger. L'objectif, vous le savez, c'est de parvenir à un accord de paix. Alors, sommes-nous dans la dernière ligne droite? En tout cas, mercredi soir, la médiation a remis un texte aux représentants des autorités de Bamako et des groupes armés. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. L'Algérie voudrait boucler les négociations dans les 2-3 prochains jours, en tout cas d'ici la fin du week-end. Vous êtes confiant, vous, ou pas, Abdoulaye?
Ah, mais moi, je suis très confiant. Il est temps, on s'est trop enlisé dans ce débat, les négociations qui n'en finissent pas. Moi, je suis très content. Je voudrais qu'on signe enfin ces accords-là.
Ouais, mais pour l'instant, de ce qu'on sait, pas question d'accorder d'autonomie au nord, encore moins d'indépendance. En revanche, le texte soumis aux autorités de Bamako et aux différents groupes armés présents en ce moment à Alger, ce texte-là reconnaît l'appellation de l'Azawad. Est-ce que ça vous choque ou pas du tout?
Mais écoutez, c'est la seule chose qui me gêne dans ces accords. Parce que pour moi, le mot Azawad ne répond à aucune réalité sociale, à aucune nécessité sociale. On pouvait s'en passer. Il y a des vrais problèmes auxquels on doit faire face et qui sont contenus dans ces accords. Les négociations portent sur des préoccupations des sociétés concernées. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Et s'il y a une partie qui a gagné vraiment dans cette affaire, c'est bien le MNA. Aucune autre localité au Mali n'est parvenue à arracher des accords avec l'État. Ça, c'est déjà essentiel dans le débat. Ils n'ont pas à tenir compte du mot Azawad, qui ne repose sur rien en réalité.
Et pourtant, dans le texte, l'appellation d'Azawad est qualifiée, je cite, de réalité humaine, socioculturelle, mémorielle et symbolique.
On peut continuer à intellectualiser, hein. Ça ne répond à rien. Nous connaissons tous l'histoire de ce pays. Il n'y a jamais eu d'Azawad. C'est peut-être une partie du territoire où c'est un pâturage où les animaux viennent. Bon, si ça, ce n'est qu'à ça que ça tient.
En tout cas, l'Azawad, c'est un territoire presque entièrement désertique, hein, dans tout le nord du Mali, qui recouvre donc des zones sahariennes et sahéliennes. Abdraman est également avec nous de Bamako. Bonjour Abdraman.
Bonjour Yohann.
Et contrairement à Abdoulaye, vous êtes assez pessimiste. Vous dites que voilà, vous n'y croyez pas, vous, à la signature d'un accord de paix dans les 3-4 prochains jours.
Tout à fait, Yohann. Et je pense qu'en fait, on est toujours dans la même situation où on ne fait que badigeonner la situation. Et malheureusement, le seul regret que j'ai par rapport à ça, en regardant les deux processus qui se sont déroulés, on comprend que ce soit la médiation ou que ce soit le mouvement armé, ils sont dans une stratégie bien ficelée. Et malheureusement, nos autorités n'arrivent pas à suivre ce mouvement. Je m'explique. C'est que le premier accord de cessez-le-feu qui avait été signé, c'était entre le MNLA et les populations de ces mêmes zones qui ont décidé d'assurer leur propre sécurité. Et donc, sur le premier accord de cessez-le-feu qu'on a fait signer le gouvernement, ça permettait de légitimer le mouvement, le MNLA et ses alliés. Et ce deuxième accord de cessez-le-feu, ou le texte qui vient de sortir, permet de reconnaître l'Azawad. c'est-à-dire que de reconnaître un territoire. Donc, pour moi, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'effectivement, la reconnaissance de l'Azawad nous amènera forcément à un moment donné à cette question d'autonomie et de régionalisation ou de, je ne sais pas, d'indépendance.
Mmh. Donc, vous dites forcément à un moment donné, il va falloir qu'on accorde véritablement un statut au nord du Mali.
Mais oui, ils sont dans cette logique. Ils sont dans cette logique. Et pour moi, aujourd'hui, si le but, c'est d'avoir la paix, il faut forcément qu'on intègre tous les acteurs. Et à mon avis, il y a un acteur important et essentiel dans ce conflit qui détient le terrain, c'est le mouvement en Sardine. Le mouvement des Yadagali.
Oui, mouvement en
Sardine. C'est incontournable.
Le mouvement en Sardine qui ne participe pas aux négociations à Alger, puisque ceux qui sont exclus de ces négociations sont tous les groupes liés à Al-Qaïda. Vous pensez que ce groupe lié à Al-Qaïda doit négocier avec le gouvernement de Bamako?
Oui, ça c'est les médias qui le disent. Moi je pense qu'en Sardine, Yadagali, jusqu'à ce qu'il soit dans le nord à prendre les armes, il était le consul du Mali en Arabie Saoudite. Donc pour moi, ça dit que c'est quelqu'un qu'on peut récupérer. À mon avis, dans ce mouvement, il y a des gens qu'on peut récupérer. Il y a dans Sardine, Yadagali, tout le monde le connaît, sa maison à Bamako ici, tout le monde le connaît, sa famille était là même jusque récemment encore dans le mouvement des événements. Donc c'est quelqu'un qui peut être fréquentable. Et à mon avis, il faut qu'on retrouve à récupérer Yadagali, c'est lui qui détient le terrain. Le MNLA, ce sont des groupes de chômeurs et à mon avis, eux, c'est la communication. Ils ont des réseaux de communication, ils arrivent à papoter, à parler, mais en réalité, ils ne détiennent aucun militaire, ils n'ont absolument rien.
Bon, en tout cas, c'est votre analyse du terrain. Elle vous appartient évidemment. Un mot à Abdrahmane et je poserai la même question à Abdoulaye. Certains à Bamako souhaiteraient que le projet d'accord, le projet de paix qui sortira donc des négociations d'Alger soit validé par référendum. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Abdrahmane?
Que ce soit une bonne idée de passer par un référendum. À mon avis, nous avons mis des autorités en place. Il faudra qu'on leur fasse confiance et que ces autorités jouent
d'accord.
pleinement leur rôle.
Donc pas de référendum, avis, pas de référendum pour vous. Abdoulaye, est-ce qu'il faudra un référendum pour valider ou pas l'accord de paix?
À mon avis, je pense que nous avons des autorités qui peuvent négocier. Alors,
d'accord.
Nous leur avons fait confiance, et elles sont là pour nous, et le référendum, ça ne fera que traîner, et faire traîner la chose. Et moi, je voudrais juste donner une précision.
Très, très vite, hein, très vite.
Et dans les négociations, celui qui décide de s'exclure, mais il est exclu des négociations. Mais si Yadagali ne veut pas s'inscrire dans la dynamique de la négociation, mais qu'on le laisse de côté.
D'accord.
On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On se bat pour un développement dont on retarde la mise en place. C'est quand même une démarche contradictoire. Mmh.
En tout cas, on aura l'occasion, c'est promis, hein, Abdoulaye Abdrahmane, de revenir sur le dossier malien. On va suivre évidemment de près les trois prochains jours et on verra si effectivement, d'ici au début de la semaine prochaine, cet accord sera conclu entre les différentes parties. 33 9 693 693 70, je vous le disais tout à l'heure en introduction, Pierre, Camerounais, vivant à Donetsk, en Ukraine depuis le milieu des années 90, nous a envoyé un courrier électronique, on me dit qu'on l'a en ligne. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Le réseau téléphone passe. Vous souhaitiez, vous, participer à cette libre antenne pour témoigner de la situation dans l'est de l'Ukraine. Vous êtes dans une zone qui est en ce moment contrôlée par les séparatistes et vous disiez sur votre courrier électronique, dans votre courrier électronique, que le cessez-le-feu n'était pas vraiment respecté sur le terrain.
Oui, exactement. Le cessez-le-feu a été fini depuis près de 10 jours. Jusqu'à présent, nous sommes... Il y a des conflits, il y a des combats. Je ne peux pas dire que ce n'est pas respecté. Je dis que c'est respecté à 70%. Parce que l'intensité des combats a baissé, la régularité aussi. Mais de temps en temps, comme avant, il y a deux jours, le centre de Donetsk a été bombardé. Des obus sont tombés, faisant plein de dégâts dans l'ancien immeuble du service de sécurité, donc comme on appelle le DNL, les séparatistes.
D'accord. Alors, en ce moment, on vient de me dire que vous êtes dans un bus avec beaucoup de réfugiés.
Oui, je suis dans un bus, nous partons de la ville de Dnipropetrovsk, c'est-à-dire de la ville contrôlée par l'américainienne. Nous allons dans la ville de Donetsk, dans la ville contrôlée par les séparatistes. En tout cas, nous sommes dans un bloc posé de l'américainienne, le contrôle n'a pas mis long, parce que nous sommes tirés dans le territoire contrôlé par les Ukrainiens. Le plus difficile sera de traverser la ligne de front entre les deux armées. là, les contrôles font entre 1 heure et 2 heures du temps. Dans mon bus, il y a plein de vieillards, c'est des gens qui ont quitté leur maison pour certains depuis 6 mois.
Ouais.
Leur âge varie entre 60 et 80 ans. Ils sont dans la nostalgie. J'ai causé avec une maman qui m'a dit que vraiment, elle sait que le danger continue. Il y a la peur, mais elle doit rester dans sa maison parce qu'elle a la nostalgie de la maison et du quartier où elle a vécu toute sa vie.
Pierre, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans cette région et que vous n'ayez pas envie de revenir dans votre pays, le Cameroun? Pourquoi restez-vous dans l'est de l'Ukraine?
Vous savez, je suis en Ukraine depuis plusieurs années. Avant la guerre, la situation n'était pas mauvaise. J'avais un petit boulot. Et surtout, la plus grande raison, c'est que j'ai un fils de 8 ans. Le prendre au Cameroun, c'est beaucoup de questions. Le quitter, l'abandonner comme ça, c'est aussi beaucoup de questions. Justement, c'est la raison pour laquelle maintenant je vais à Donetsk.
D'accord.
Parce que tout le temps de combat, mon fils est à Donetsk. Il a 8 ans avec sa maman. Mmh. Je suis obligé de risquer pour aller leur rendre visite.
Pierre, merci d'avoir envoyé ce courrier électronique. Notre adresse appel au pluriel @actu@rfi.fr. Bonne continuation, bonne route. Appelez-nous, donnez-nous de vos nouvelles. Dites-nous si vous êtes bien arrivé à Donetsk. Vous aviez donc, si j'ai bien compris tout à l'heure, 2 heures de route. 33 9 693 693 70. C'est la libre antenne. Marc nous appelle de Berlin. Bonjour Marc.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes très remonté contre les Grecs. La Grèce qui, rappelons-le, croule sous 320 milliards de dettes, milliards d'euros, évidemment, de dettes. Et vous dites, voilà, il n'est plus question que les Européens continuent à payer pour la Grèce.
Mais monsieur Juan Gomez, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas payer pour quelqu'un qui a fait la fête en été et en hiver, il vient me demander de l'argent. C'est pas possible. C'est pas possible.
D'accord. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous choque? Ce qui vous choque, c'est que le Premier ministre grec voudrait un effacement total de la dette de son pays, ce que refuse évidemment Angela Merkel. D'ailleurs, sur ce point, Angela Merkel est soutenue par la très grande majorité des Allemands qui sont contre un effacement de la dette et qui, les Allemands estiment dans leur grande majorité qu'Athènes doit s'en tenir aux mesures d'économie qui ont été décidées ces derniers mois avec la Troïka. Votre sentiment, c'est que les Grecs abusent?
Ils abusent énormément. Récemment, ils ont demandé, M. Tsipras a demandé une réparation de guerre d'un montant de 162 milliards, qui ferait à peu près 50% de la dette. En plus.
Bon, c'est tout ce que vous avez à dire,
Marc. Très bien que la Grèce est au bord du Grexit. Ça veut dire qu'il doit sortir de la zone Europe. Et au lieu de demander aux Européens, ils devraient d'abord commencer à demander aux Grecs eux-mêmes, aux grands milliardaires grecs dont les comptes sont un peu partout en Europe. Et je pense que leur dette s'amoindrisserait.
Ce que vous dites, c'est que ce qu'il faut, c'est que voilà, c'est que les milliardaires paient leurs impôts. Les milliardaires grecs déjà paient leurs impôts et que les autorités combattent l'évasion fiscale et la corruption.
Pendant des années, ils ont été exonérés d'impôts. Pendant des années. Et c'est pas maintenant qu'on vient de me demander à vous, à moi, aux Européens, demander de l'argent pour nous aider. C'est pas possible.
D'accord, vous l'avez dit, c'est pas possible. Marc, on vous souhaite une bonne journée à Berlin. Merci de nous avoir appelés. L'élection présidentielle au Togo, on connaît désormais la date, ce sera le 15 avril. Et cette semaine, sans surprise, le parti au pouvoir a investi Fornia Simbe comme candidat. Le président sortant brigue donc un troisième mandat. Samuel, bonjour.
Et bonjour, Noah Gomez.
Vous êtes à Kara, dans le nord du Togo, et vous dites que cette candidature de Fornia Simbe, ben, c'est une bonne chose pour le Togo.
Bien sûr, c'est une bonne chose pour le Togo, dans la mesure où, actuellement, c'est le président qui est en vue pour vraiment remplir les élections prochaines. Il est le candidat investi par son parti, au vu des actions qu'il a posées, non seulement au sein de son parti, mais aussi pour le pays. Voilà, donc aujourd'hui nous constatons au Togo, quand je prends un peu la ville de Lomé, qui a fait peau neuve en termes d'infrastructures routières, infrastructures aéroportières, ferroviaires et maritimes. Sur le plan sécuritaire, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour assurer au pays un certain nombre de données sécuritaires. Je crois que déjà, Et c'est des signes qui montrent que le président Fonia Singe a envie de continuer pour mieux faire.
Alors, pour mieux faire, mais excusez-moi Samuel, certains vous diront, mais il est peut-être temps pour le Togo de connaître l'alternance.
Mais l'alternance ne peut se faire que par le jeu des suffrages. On est d'accord. Donc, dans la mesure où les partis de l'opposition n'ont pas encore en leur sein un candidat à même de pouvoir affronter le candidat en face, qui est celui au pouvoir, je crois qu'on ne va pas faire un jeu de parole. Il faut aller aux élections, et aujourd'hui, au niveau de l'opposition, il y a carrément trop de multiplicité de candidats.
Oui, c'est vrai que dans un premier temps, l'opposition disait « présentons un candidat unique pour faire face au président sortant ». Et une fois de plus, eh bien, on le voit bien, les opposants se présentent en ordre dispersé. Non seulement il va y avoir 5-6 candidats de l'opposition, mais en plus de ça, une partie de l'opposition appelle même à boycotter le scrutin du 15 avril. Lazare, vous nous appelez de Poitiers, vous êtes Togolais. Bonjour Lazare.
Oui, bonjour Juan.
Vous souhaitiez également réagir à la candidature de Fonia Singe?
Effectivement, par rapport aux dispositions de l'article 59 de la Constitution togolaise, je crois que M. Faure et Fonia Singe a droit de poser encore sa candidature.
Ah oui, effectivement, la Constitution ne limite pas le nombre de mandats, donc il peut se présenter autant de fois qu'il le souhaite.
Voilà, c'est ça. Mais j'aimerais tout de suite dire que si par exemple mon confrère Samuel dit que c'est le candidat idéal pour le Togo, je crois que c'est le candidat idéal pour l'unir et non pour le Togo.
L'unir, le parti au pouvoir.
Effectivement, son parti et non pour le Togo. Et Juan, moi, je crois qu'il y a un petit souci par rapport à l'organisation de ces élections. Pourquoi ? Je crois que, en voyant un peu la date qui a été retenue, si nous savons que la CENI avait proposé, je crois bien, 21 avril, et cette date avait été contestée.
Enfin, malgré ça, Lazare, 21 avril, 15 avril, vous pensez qu'il y a lieu de polémiquer pour 8 jours de différence?
Oui, parce que normalement, la date qui a été proposée, il y avait un problème par rapport au fait que la date était bref. Le délai était bref, était court, c'était ça le problème. Ouais. Donc si maintenant, on réduit encore ce délai qu'on qualifie déjà de court, je crois qu'il doit y avoir un problème. Ça, c'est mon premier souci.
Bon, d'accord. Secondo. Alors, rapidement, Lazare, essayez d'être clair, oui.
Oui, secondo, je crois que le fait de retenir la date du 15 avril là, n'est pas neutre, parce que normalement, le 15 avril 2015, l'unir le parti du président Faure aura 3 ans. Mais je crois que c'est pas neutre de choisir cette date-là.
Ouais, bon, vous êtes en train d'aller, à mon avis, vous êtes en train de chipoter sur des petites choses. On me dit que Dozy, qui nous appelle d'Accra, vous écoute en ce moment, et on me dit qu'il rigole beaucoup hors antenne à vos propos. Dozy, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute. On vient d'entendre l'analyse de Lazare. Il a le droit, évidemment, d'aller chercher la petite bête, comme pourraient le dire certains. Vous, comment vous réagissez à la perspective de l'élection présidentielle du 15 avril?
Je suis complètement contre la candidature du président Faure. C'est un président qui a géré le pays de façon irresponsable et je ne vois pas pourquoi il va se présenter encore une troisième candidature.
Et en même temps, il a le droit.
Mais il a le droit. Vous appuyez sur quoi pour méditer
sur la Constitution, excusez-moi, Dozy, la Constitution, elle est là, elle est claire.
Quelle Constitution, Juan? La Constitution qui a été toilettée par les gens du RDP, la Constitution que les Togolais reconnaissent, c'est la Constitution de 1992. La Constitution actuelle qu'ils utilisent, c'est une Constitution qui a été toilettée par son père pour se maintenir au pouvoir. On le sait tous. Si Faure veut réellement dire aux Togolais que je suis aimé par les Togolais, il n'a qu'à faire les réformes. Il n'a qu'à organiser les élections transparentes. Oui. Enfin, les gens vont se présenter, chacun aura, ils seront sur la même type d'égalité.
Ne parlez pas trop vite, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, juste pour préciser que Fonia Singe n'est pas contre les réformes, n'est pas contre la réforme constitutionnelle, mais a-t-il dit, et il l'a toujours dit, en tout cas dans son entourage, après le scrutin présidentiel. Là aussi, le débat politique s'annonce passionnant d'ici à l'élection présidentielle, donc du 15 avril. Lundi, à ce micro, vous serez en compagnie de Zéphirin Quadio, et Zéphirin vous propose de dresser un bilan.